Chapitre 70. Concini, sans se retourner, partit d'un pas allongé. Il n'alla pas au Louvre. Il alla frapper d'une manière spéciale à la porte de la maison de la rue des Écrivains. Ce fut frère Parfait Goulard qui le reçut, Claude Acquaviva étant absent à ce qu'il dit. Ils eurent un long entretien. Quand il sortit, le Florentin paraissait radieux. Le moine, lui, demeura un moment soucieux et il murmura « J'ai oublié de lui dire que si on voit, on entend aussi. » Il réfléchit un instant et « Bah, pour ce qu'il dira, c'est sans importance. Quant à Jehan, puisqu'il verra, il peut aussi bien entendre. » Sur cette réflexion, Parfait Goulard se retira. Il s'engagea dans la rue de la Hommerie, passa devant le cul-de-sac où se trouvait la prison et descendit vers la rue Saint-Denis. Lorsqu'il eut dépassé le cul-de-sac, un homme, le manteau relevé jusque sur le nez, se détacha d'une encoignure et se mit à le suivre. Disons tout de suite que c'était Pardaillan. Ses yeux pétillaient dans l'ombre et il se disait « Par Pilate, comment ce moine que j'ai vu de mes propres yeux vu entrer dans la prison se trouve-t-il dans la rue de la Hommerie, paraissant venir de la rue des Écrivains ?» Il eut un rire de satisfaction et se répondit à lui-même « C'est que je me suis laissé jouer comme un niais. C'est que la maison de la rue des Écrivains communique par une voie souterraine avec la prison. En sorte que, lorsque l'ayant vu entrer par la rue des Écrivains, je faisais d'interminables pauses devant la maison, lui, il filait par la prison et je n'y voyais que du feu. Par Dieu, les choses se précisent. Je commence à voir un peu plus clair. Je brûle. Demain, il me faudra aller étudier de près la prison. En attendant, ne perdons pas de vue notre homme, quoique maintenant que je connais sa manière de procéder, il m'apparaisse clair comme le jour que sa journée est finie et qu'il rentre bonnement se coucher. Encore faut-il que je sache où reprendre la piste demain matin. » Parfait Goulard, pendant ce temps, avançait. Par des voies détournées, il arriva à la porte Saint-Honoré quelques instants avant la fermeture. « Bon, se dit Pardaillan, il va se coucher chez les Capucins. » Ce qui prouve qu'Acquaviva reste en relation secrète avec ses dignes moines. Il attendit cependant que la porte fût fermée et il fit demi-tour. La nuit était tout à fait venue. Il remonta la rue Saint-Honoré en se disant « Faisons comme le moine, allons nous coucher. » En passant devant la rue Saint-Thomas, il vit un papier grand ouvert étalé au milieu de la chaussée. Il aurait peut-être passé sans y prendre garde. Mais à ce moment, la lune, dans le ciel clair, se montra dans tout son éclat et ses rayons d'argent éclairèrent le papier. Pardaillan avait la vue perçante. Ses yeux tombèrent sur cette feuille et il tressaillit. « Le cachet et les armes de la baisse de Montmartre » murmura-t-il. « Par Dieu, serait-ce le Frocard qui aurait perdu ceci ? Ramassons, on ne peut pas savoir. » Il ramassa en effet et mit dans son pourpoint. Rentré chez lui, à l'auberge du Grand Passepartout, il se hâta de vérifier ce que valait sa trouvaille. Il murmura « Ordre de Madame l'abbesse de laisser pénétrer le porteur dans sa prison et d'obéir à tout ce qui lui plaira d'ordonner en son nom. Mordieu, le hasard me favorise. Voici un papier qui sera peut-être précieux pour moi. » Et, enchanté, il se coucha en se disant qu'il n'avait pas perdu sa journée. Ce papier qu'il venait de trouver était celui que Saint-Julien avait montré au portier du Fort aux Dames. Comment se trouvait-il là? C'est ce que nous expliquerons en revenant à Saint-Julien, avec lequel nous n'en avons pas encore fini, tout mourant qu'il soit. Lorsque Concini se fut éloigné, un homme qui les suivait depuis la rue d'Orléans pénétra dans la rue Saint-Thomas. C'était Saëta. Il se pencha sur Saint-Julien immobile et visita la blessure d'un œil expert. Il dit froidement « Joli coup, son compte est bon. Pourvu qu'il dure encore une heure et qu'il parle, c'est tout ce qu'il me faut pour convaincre la signora. » Il saisit le corps inerte dans ses bras robustes, l'enleva et partit. En route, le papier, passé dans la ceinture probablement, glissa et tomba là où devait le trouver Pardaillan. Saëta pénétra près de Léonore, posa doucement le blessé sur un lit de repos, et sans prononcer une parole, le montra à la Galigaille. Celle-ci, en reconnaissant l'espion, avait eu un léger froncement de sourcils. Au reste, nulle émotion, pas la moindre trace de pitié ou de sympathie. À ses yeux, Saint-Julien, comme tous ceux qu'elle utilisait, était un instrument, pas plus. L'instrument brisé, elle le remplaçait par un autre, et tout était dit. « Est-il mort ? » demanda-t-elle froidement. « Pas encore, signora. »« Qui l'a mis dans cet état ?» Saeta leva les épaules et les bras en un geste qui signifiait qu'il ne savait pas. « Il faut savoir !» dit Léonora qui réfléchissait. Dès l'instant où elle avait un intérêt personnel en jeu, le blessé ne lui était plus indifférent. Aidée de Saeta, elle s'activa à le ranimer. Au bout d'un moment, Saint-Julien ouvrit des yeux troubles où se voyait déjà le spectre de la mort. « Qui vous a blessé ?» demanda Léonore d'un air apitoyé. Péniblement, dans un râle, le moribond énonça « Concini !» Léonore eut une imperceptible contraction de la face. Elle fixa sur le malheureux des yeux durs, acérés, comme si elle avait voulu le poignarder du regard, et gronda « Pourquoi ? Il savait donc ? Vous vous êtes laissé surprendre ?» Saint-Julien n'eut pas la force de répondre, mais ses yeux, en un scintillement, dirent « oui ». Il se raidit en un spasme suprême, retomba doucement et demeura à jamais immobile, les yeux grands ouverts. « L'imbécile ! » gronda Léonore. Elle se détourna du cadavre, alla s'asseoir dans son fauteuil et, la tête appuyée sur la main, les yeux perdus dans le vague, elle se plongea dans une sombre rêverie. « Où l'as-tu trouvé ? » demanda-t-elle brusquement, en fixant sur Saeta l'éclat soupçonneux de son œil de feu. Saeta coula un furtif regard sur le corps déjà rigide et rassuré, très calme, l'air indifférent. « Rue Saint-Honoré, où il s'était traîné, » dit-il en soutenant avec assurance l'examen pénétrant de la terrible jouteuse. Lentement, Léonore détourna son regard. Saeta eut un imperceptible sourire. Il comprenait que le soupçon naissant était écarté. La galigaille allongea le bras et frappa sur un timbre. Au laquais accouru, elle désigna de la tête le corps raide de l'homme mort à son service. Le laquais comprit. Il ne s'étonna pas. Simplement, il appela un camarade et, à eux deux, ils enlevèrent le cadavre. Elle se remit à songer. Au bout d'un instant, elle dit, avec un calme sinistre, comme si elle continuait une conversation, « Tu disais donc, Saeta, qu'en conduisant cette jeune fille dans une maison isolée, il serait possible de faire d'une pierre deux coups et de nous débarrasser du roi et de ton fils ?»« Enfin !» rugit Saeta intérieurement. « Je savais bien que tu y viendrais. Ce n'aura pas été sans peine. » Et tout haut, il développa, en l'amplifiant, en précisant des détails sérieusement mûris, le même plan que nous l'avons entendu esquisser la veille. Quand il eut terminé, Léonora approuva. « Je crois décidément que ton idée est bonne. Je m'en tiendrai là. Reviens demain vers les 10 heures du matin. Je te donnerai mes instructions à ce sujet. Va !» Saeta se retira, le cœur débordant d'une joie furieuse. Concini, la veille, était allé rue des Écrivains. Il avait été reçu par le bras droit d'Aquavive, frère Parfegula, avec lequel il s'était entretenu. Mieux renseigné ou honoré d'une plus grande confiance, Léonora se rendit au fort aux dames. Elle pénétra dans cette petite mansarde de la maison mystérieuse auprès du redoutable chef de la Compagnie de Jésus et c'est directement avec lui-même qu'elle eut un long entretien. En sortant de la prison, elle se rendit au Louvre. Là, elle eut un autre entretien aussi long, aussi mystérieux et sans doute aussi terrible avec Marie de Médicis, la maîtresse de son mari. À 11 heures, elle était de retour chez elle, où Saeta l'attendait, non sans impatience.